Salut, tu es sur le podcast de Match Après Match.
Chaque dimanche, vous avez rendez-vous dans le salon de Match Après Match. C'est un plaisir de vous retrouver. Nous sommes en direct sur Bluezoom, nous sommes en direct sur YouTube, sur notre page BluSport.fr. Tous les lundis, vous nous retrouvez évidemment aussi en podcast sur les plus grandes plateformes. Pensez à mettre une petite étoile ou un petit pouce levé pour nous aider à grandir ensemble avec vous et avec eux. Stéphane Amoruso est là, Lorenzo Falbo est notre invité, Andrea Binotto est notre consultant. Salut les gars.
Salut. Salut.
Andrea, c'est un plaisir de te...
T'as oublié l'inviter.
Un invité. Lautaro Martinez, la petite statue.
Elle est là.
C'est bien, t'aimes bien flinguer les entrées en matière des émissions. On dit toujours les émissions, normalement, faut partir. Tac, mais Andrea, c'est direct.
On y va, on est
donc, chaud. Donc, plaisir de te retrouver un petit peu parmi nous. Tu nous rends visite. On sait que t'as trouvé de l'embauche. C'est chouette de te retrouver. T'avais un match important vendredi. Fallait battre Chafouz ou ne pas perdre. Et puis malheureusement, ça s'est pas très bien passé. Ouais, mais, la saison n'est pas terminée.
T'étais pas obligé de revenir sur cet épisode-là. Non, effectivement, on a eu un match très important puisqu'on affrontait un match, on va dire, entre guillemets, pour le maintien, qui s'est mal passé par rapport à l'aspect comptable, puisqu'on a perdu 1-0. Mais un match, malgré tout, quand même assez encourageant dans le contenu, puisque... On perd avec, je crois, 70% à peu près de possession de balle. On a largement dominé notre adversaire, mais dominer dans le foot n'est pas gagné. Donc l'essentiel, on ne l'a pas fait, à savoir marquer un but.
Ouais.
Et voilà, c'est tout le travail qui reste à faire maintenant. C'est pas seulement bien jouer au ballon, parce que je crois qu'on a bien joué au ballon. Maintenant, ce qu'il faut, c'est réussir à la mettre au fond.
Ouais, Andrea, il nous fait une interview d'après-match. Formidable. Mais bon, t'as raison, effectivement, j'ai vu aussi un 22 tirs à 4, 13 corners à 1, etc.
12.
12.
Ah oui.
12 corners.
Boss des stats. Hein.
Allez, je vous donne rapidement le programme, on va bien s'amuser. Je vous donne rapidement le programme de cette émission. On va parler évidemment des résultats de cette semaine anglaise, principalement des équipes romandes. Et puis, puisque Lorenzo est là, on va parler de Mercato également, puisqu'il y a eu beaucoup de transactions, beaucoup de mouvements pendant l'hiver. Je propose de commencer par Servette Ball. Servette qui a enfin... gagné à nouveau, ça faisait 6 matchs que les Servettiens ne gagnaient pas. Il y avait eu ce 6-0 pour Bâle, ça date, hein, mais Servette, on sait, voulait gagner ce match pour remettre un peu l'église au milieu du village. Cette victoire, c'est la victoire de quoi? Elle signifie quoi, cette victoire, après autant de matchs sans gagner?
C'est la victoire de qui, déjà, j'ai envie de dire? C'est
Derek Koutessa.
Non, mais évidemment, parce que avec la situation qui est la sienne, avec tout ce qui a été dit ces derniers jours dans les journaux, dans la presse, il était sur le banc au début du derby du Rhône, il était aussi sur le banc aujourd'hui. Il rentre, il fait une passe décisive, il marque, c'est l'homme du match. Donc c'est la victoire, clairement, de Koutessa. Et puis voilà, donc après on reviendra peut-être sur les aspects effectivement de pourquoi il était sur le banc, mais en tous les cas, pour répondre à ta question, pour moi, c'est la victoire claire de Koutessa.
Ouais, c'est une passe décisive, un but, tu l'as dit, MVP de la rencontre forcément, Koutessa, c'est la thématique de la semaine. Il a commencé son deuxième match consécutif sur le banc. Au-delà de la situation, est-ce que c'est normal pour vous de se passer d'un tel joueur, meilleur buteur du Servette FC, meilleur buteur de Super League?
Je pense que le coach a pris ses décisions. Il l'a prise et conscient et aujourd'hui, il a certainement ses raisons. Est-ce que c'est aussi peut-être pour le protéger un petit peu de tout ce qui était médiatique autour, hein. Faut pas oublier que ça fait 2 semaines qu'on parle que de Koutessa, hein, à Genève et en Suisse romande en tout cas, peut-être moins en Suisse allemande. Mais voilà, donc de nouveau, on peut voir ça de ce côté-là. Puis on peut voir aussi que c'est un joueur qui rentre en deuxième mi-temps, qui fait la diff, qui aurait pu la faire à Sion aussi. Donc voilà, moi je respecte toujours les choix des coachs. Hein. À la fin, c'est eux qui gèrent l'équipe au quotidien. Est-ce qu'il était moins dedans justement par rapport à tout ça? Il y a que Thomas Eberli qui pourrait nous donner la réponse. Mais voilà, le résultat, c'est qu'il rentre, il marque un goal, il fait un assist. Homme du match MVP, tant mieux pour Servette, je dirais, parce que Servette avait bien besoin d'une victoire et une belle victoire contre Bâle, ça fait du bien.
Ouais. Mais je suis d'accord avec toi. On en parle maintenant en bien entre guillemets parce que c'est l'homme du match. Mais admettons qu'il soit rentré ou même pas du tout, mais qu'il rentre puis qu'il fasse aucune différence. Moi, j'aurais quand même l'impression, et moi j'avais cette impression avant le début du match, que Thomas Eberli, il se met sous pression tout seul, qu'il crée une polémique qui n'a peut-être même pas lieu d'être tout seul, et ça fait évidemment beaucoup jaser et beaucoup parler.
Je te dirais le contraire. Je te dirais le contraire. Aujourd'hui, tout le monde s'attendait, alors vu ce qui s'est passé à Sion, il y avait une pression sur Eberli pour qu'il le mette titulaire. Donc là aussi, tu peux dire, ok, le coach a cédé à la pression, puis il a mis Koutessa titulaire, ou peut-être qu'il ne pensait pas le mettre titulaire. Non, moi je pense qu'il est fidèle au choix qu'il a fait à Sion, où il aurait aussi pu être MVP du match, hein, Koutessa. On se rappelle qu'il aurait pu aussi finalement changer le match. Non, moi, je respecte toujours les choix des coachs. Je pense qu'à un moment, s'ils prennent un choix, c'est qu'ils ont des raisons. Et souvent, nous, on est en dehors et on ne sait pas ce qui se passe la semaine à l'entraînement, ce qu'il y a comme discussion. Enfin, il faut comprendre qu'un coach, il doit mettre les 11 meilleurs joueurs sur le terrain. Je ne vois pas un coach mettre les 11 meilleurs et puis se dire « Non, bah, je ne vais pas mettre QTSA parce que si, parce que ça. » Il y a certainement eu des motifs. Puis il se dit « Ok, est-ce que je garde QTSA pour la deuxième mi-temps ?» Et puis il le fait rentrer, puis il est homme du match.
Alors moi, ce que j'ai de la peine à comprendre, justement, c'est ça. Et là, c'est ton avis qui m'intéresse, justement, Andréa. T'as ce joueur-là. Soit tu le fais jouer, soit tu le fais pas jouer. Mais là, j'ai l'impression qu'on est un peu sur un entre-deux. Tu me suis, et puis tu peux nous donner des explications, ce que toi, tu
interprètes. Moi, je crois que c'est très compliqué de discuter de cette situation parce qu'on connaît pas... on ne connaît pas les hypothèses, en fait. On n'est pas à l'intérieur du problème. Est-ce que la décision, déjà, elle vient du coach? Est-ce qu'elle vient d'ailleurs? Qu'est-ce qui s'est réellement passé? Est-ce que c'est vraiment que du sportif ou pas? Est-ce qu'il y a eu des dérapages à l'entraînement de niveau discipline, comportement? Est-ce qu'il y a eu autre chose? On ne sait pas. Donc aujourd'hui, discuter de ce cas-là, je crois qu'on va dire beaucoup de bêtises parce qu'on n'a pas, on n'en a pas vraiment.
Il y a quand même eu des fuites, il y a eu des choses.
Sportivement parlant,
il y a eu des choses.
Le transfert avorté, de nouveau, je suis dans le mercato, je suis un agent. Le transfert avorté, les tenants, les aboutissants, on ne les a pas, comme dit Andréa. Donc, moi, je dis toujours, c'est difficile de juger ou d'essayer d'expliquer une situation. Aujourd'hui, une situation, c'est que Thomas Eberle a décidé de ne pas le faire jouer titularisation. Il l'a fait rentrer, il aurait pu changer le match. Aujourd'hui, il n'est pas titulaire, il le fait rentrer, il change le match. Tant mieux pour Servette. Après, tout ce qui est autour, oui, on peut faire des suppositions, on peut essayer d'imaginer des choses, mais à la fin, on ne sait pas ce qui s'est passé. C'est donné une semaine aux entraînements. Il se peut que le garçon, vu toutes ces discussions, était peut-être perturbé. Moi, j'ai eu des joueurs qui, tout d'un coup, pour des situations extra-sportives, ont été perturbés. Un coach, il ressent.
On va y voir un petit peu plus clair. On a chacun donné un peu notre avis, chacun essayé de s'exprimer. Mais on a trois intervenants qui ont parlé au micro d'Alain Rohrbach aujourd'hui à Genève. On les écoute et on en parle après.
On a parlé jeudi après le match de CEO. Bah, mercredi, jeudi, on a parlé ensemble. Et puis avec l'équipe, il sait qu'est-ce qu'il doit faire. Et on a dit encore hier qu'est-ce que je demande sur le terrain. Et puis il sait ses tâches, c'est important. Et puis c'est clair, il avait beaucoup de bruit autour. Que j'ai même entendu que la direction prend influence, mais ce n'est jamais le cas. C'est moi qui décide qui joue. Je crois aussi qu'il y a d'autres joueurs qui dans le mercato qui ont des offres ou qui. Ouais, on doit toujours avoir trois oui. Oui de Servette, oui de nouveau club, oui du joueur. Et puis si oui il manque, ça veut dire que ça reste comme c'était. Et puis dans ce cas, il y a beaucoup de prix parce que c'est sorti. On ne sait aussi pas pourquoi c'est sorti. Parce qu'il y a d'autres joueurs qui sont aujourd'hui sur le terrain qui ont peut-être le même cas.
Il n'y a pas du tout d'amiosité dans le vestiaire, que ce soit envers Derek ou un autre, surtout que Derek, il avait plus qu'apprécié dans le vestiaire, il nous a fait gagner tellement de points. On est déjà passé par là, il y a eu Bédia à l'époque, il y en a eu d'autres, il y avait Nsamé, ça fait un petit moment maintenant, mais il y a eu Nsamé qui était encore en changing. Je veux dire, comme je l'ai dit, c'est une réponse bateau, je sais, mais c'est vraiment la réalité. Je pense que tous ceux qui sont sur le plateau, qui ont été joueurs professionnels, vous répondront à la même chose, c'est qu'à un moment donné, c'est tant que le vestiaire n'est pas impacté, quand ce n'est pas des guéguerres internes entre joueurs, ça fonctionne bien.
J'enlève mon maillot parce que c'est un peu de. C'est un peu de rage, comme vous avez dit, avec cette semaine un peu agitée. Je ne connais pas un joueur ambitieux qui aime être sur le banc. Donc quand tu vois ton numéro sur les bancs de remplaçants, tu n'es pas content et tu n'as qu'une envie, c'est de lorsque tu rentres sur le terrain, de tout casser et de faire la différence. En ce qui concerne la discussion que j'ai eue avec mon président, il n'y a pas eu de mise en pression. Il n'y a pas eu de mise en pression de ce côté-là. C'était plutôt calme, c'était honnête, c'était professionnel. Et il m'a donné son point de vue, je lui ai donné mon point de vue. Et surtout, je lui ai remercié parce que ça m'a rassuré en fait. Parce que voilà, il y a eu quand même des scènes, pas de sa part, mais il y a eu quand même des scènes inquiétantes. Donc lui, la discussion que j'ai eue avec lui, c'était plutôt rassurant. Et je le remercie encore aujourd'hui d'avoir fait ce geste-là.
Voilà, on parle ici quand même de gens qui ont eu des messages à faire passer. Si on prend l'interview d'Eberle, il est quand même pas content parce qu'il y a des infos qui ont fuité. Il donne aussi quand même cette information très importante pour lui. C'est moi qui fais l'équipe et personne d'autre. Et puis, chez Derek Coutessa, il y a deux fois, messieurs, des remerciements pour une personne, le président. Mais il y a cette inquiétude quand il parle d'autres personnes. Il remercie que le président. Alors c'est qui ces autres personnes? C'est qui est lié à ces inquiétudes-là, pour vous?
De nouveau, on peut, voilà, on n'est pas dans le club aujourd'hui à l'interne pour savoir ce qui s'est passé. Eberle a bien expliqué pourquoi, enfin, il n'a pas dit pourquoi il ne l'a pas fait jouer, mais il a expliqué que c'est bien lui qui faisait ses choix. Ça, je pense que c'est important. Il l'a dit. Et puis Kutesa, il a aussi peut-être voulu piquer sur certains aspects, de nouveau. Voilà, pour moi, il remercie le président parce qu'il a certainement une discussion avec le président très intéressante sur son futur proche, hein, puisqu'on sait qu'au mois de juin, il ne sera plus là. Et puis, il a une discussion avec le coach qui, pour moi, est le plus important. Donc, en fait, je dirais que pour moi, l'affaire est close. Et puis aujourd'hui, bah, il est passé à autre chose et puis il a fait super match.
Ça veut dire qu'on n'est pas dans l'impasse qu'on essaierait de nous...
Pas du tout.
De nous dessiner. Il n'y a pas d'impasse, il n'y a pas un joueur qui, bah, voilà, qui aurait pu partir, mais qui a refusé de partir, que le club aurait souhaité faire partir.
Il a dit dans son interview, ça a fuité. Je ne sais pas pourquoi ça a fuité, parce que clairement, il l'a dit, sur le terrain, il y avait des autres joueurs dans cette situation-là. Ouais. C'est ce qui se passe dans tous les mercatos, tu le sais évidemment beaucoup mieux que moi. Mais là, ça a fuité, pourquoi ? Parce qu'on parle du meilleur buteur du championnat, de Kutesa, du meilleur Servetien ou un des meilleurs Servetiens qui peut faire la différence, on l'a vu aujourd'hui. Donc c'est pour ça que c'est sorti. Et c'est pour ça qu'on... Moi, je pense, ça a été monté en épingle. Mm-hmm. Et puis après, on peut faire dire ce qu'on veut à tout le monde. Mais finalement, je pense qu'on a fait beaucoup de bruit pour rien. Voilà, donc après...
Mais c'était quand même fou de voir, hein, aujourd'hui en zone mixte, le nombre de journalistes qui avaient là, qui ont attendu Derek Kutesa pour avoir des informations, pour avoir des
mais ça peut votre job aussi d'avoir des infos. Enfin, par
mais
contre, le job de sortir des infos.
Autant. T'as alors, pas tout le temps autant non, de journalistes qui attendent
nouveau,
un seul joueur.
Oui, parce que voilà, il y a eu toutes ces fuites. Ouais. Mais ces fuites aussi, il faut se poser la question, pourquoi ces fuites ? Mm-hmm. Moi, je suis assez persuadé que dès le départ, aujourd'hui, Kutesa, il est meilleur buteur du championnat. D'accord, je parle en tant qu'agent là. Hein. Il est meilleur buteur du championnat. Il est en fin de contrat au mois de juin. Quel intérêt aurait Derek de partir en Égypte, hein, s'enterrer en Égypte, hein, pour dire la vérité, ouais. Non, Derek, il est dans le juste. Et son agent, de nouveau, hein, je suis agent, je pense qu'ils sont dans le juste. Aujourd'hui, il va attendre le mercato de juin. Il aura certainement plusieurs offres. Il n'a aucun intérêt à partir maintenant. Il est meilleur buteur du championnat, je le rappelle. Donc, je pense qu'aujourd'hui, l'affaire est, on l'a montée en épingle, et je pense que tu as dit le mot. Moi, je pense que dès le départ, il y a peut-être eu quelque chose, il y a peut-être eu une offre de Al Ahly en l'occurrence, mais je pense qu'elle a été balayée direct. Je pense qu'il n'y a pas eu de discussion. Je ne pense pas qu'il y a eu de discussion ni avec le club, ni avec le joueur.
Ah, c'est ça que
il y a peut-être entendre. Eu une offre, comme il y en a dans tous les mercatos, mais non. Moi, je pense qu'on l'a montée en épingle, cette histoire. Et c'est ça qui a perturbé le club, le joueur. Et Eberle, peut-être, en coach, en commandant du bateau, il a décidé, OK, ben, moi, il faut que je calme ma situation.
Il l'a protégé.
Moi, je pense qu'il l'a protégé d'une certaine manière. C'est mon avis. Il l'a protégé. Et il le fait rentrer parce qu'il sait que c'est une arme. Et je répète, à Sion, il n'a pas été loin de changer le match non plus.
Ouais,
donc,
on était les deux à Sion. On a vu le match au stade.
Il n'a pas été loin de le changer.
C'est un joueur, quand même, Derek Kutesa, qui, quand il rentre, fait sa propre équipe joue différemment et l'adversaire joue aussi différemment.
Mais c'est l'arme.
Quand tu en arrives là, c'est que tu es quand même effectivement une arme hyper
concurrente.
C'est
un joueur qui fait des différences tout le temps. Les équipes ont besoin de ces joueurs qui font les différences. Parce qu'à un certain moment, tu peux avoir un collectif qui tourne extrêmement bien, tu proposes du jeu, mais les matchs se gagnent justement sur ces joueurs qui sont capables de faire des différences. Et Kutesa fait partie de cette liste-là, ça c'est clair.
Ouais. C'est sûr qu'on a vu quand il rentre. Ouais. Tout de suite, il est dedans. Lui aussi, il le dit, il est piqué. D'ailleurs, il enlève. De nouveau, André Alla, un coach, quand il veut piquer un joueur, des fois, oui, tout d'un coup, pour le piquer vraiment, il va le mettre sur le banc. Ouais. Ça nous est tous arrivé en tant qu'amateur, ça arrive aussi aux professionnels, qu'à un moment donné, pour te piquer. Puis je pense que là, Derek, il était piqué au vif, et aujourd'hui, ça a failli passer contre Sion. Et là, ça a passé. Bon, bah voilà, c'est du grand Derek. Et honnêtement, il est sur une saison incroyable. Je pense que tout le monde peut dire qu'aujourd'hui, c'est pour ça que je dis que l'histoire d'Al Ahly, pour moi, c'est. Il n'y a rien de spécial parce qu'aujourd'hui Derek, s'il continue sur cette lancée là aujourd'hui je crois qu'il a 13 buts, hein,
13,
voilà, il risque de finir peut-être pas loin des 20 buts, il va finir meilleur buteur dans le championnat parce que JP est arrivé puis Bedia, mais ils sont un peu tard parce qu'il, je pense qu'il va avoir des offres cet été et il va pouvoir certainement rebondir parce qu'il faut pas oublier que c'est un joueur qui était passé déjà par l'étranger, qui a dû revenir en Suisse. Mais aujourd'hui, voilà, je pense qu'il est au maximum, enfin au top de sa forme.
Mais du coup, je porte juste un pavé dans la main.
Oui.
S'il a été quasi décisif contre Sion, s'il a été décisif contre Bâle en rentrant, est-ce qu'il ne faudrait pas,
mais
dans
non.
quelques matchs, le faire rentrer ?
Non, mais on casse les bonbons de savoir qu'on se passe dans... Déjà,
non, mais je suis d'accord, mais les faits sont là.
Oui, mais non, mais il est tout aussi décisif si tu lui donnes 90 minutes au lieu de 45.
Je trouve que sur les derniers matchs de 90 minutes, il n'était pas autant décisif qu'en début de saison.
Ouais, mais qu'au début de saison, mais il a peut-être, il a peut-être.
C'est pour ça que je dis que genre c'est pas mis dans la main.
Non, je pense que t'as un joueur comme ça, non, quand t'as un joueur comme ça.
Mais encore une fois, sans jugement.
Il a encore montré sur ces deux derniers matchs.
On juge pas Eberle, on juge pas ça. On essaie de discuter.
T'as un joueur comme ça dans l'effectif, tu t'en passes pas. Là, il s'en est passé pour certainement des bonnes raisons qu'il a lui.
Ouais.
Et voilà, maintenant, je pense que pour la suite, oui, il va continuer à jouer, c'est
sûr. Ok, donc on garde les mots pour résumer. Protection du joueur, piquer le joueur.
Monter en épingle.
Ouais, ça, et oui. Puis, joueur extraordinaire, meilleur buteur de Super League. Vous êtes beaucoup, hein, vous êtes beaucoup à nous écrire. On va essayer de lire toutes vos questions, vos remarques. Vous êtes beaucoup à penser que IB pourrait jouer les troubles faits, peut-être gagner le championnat. Ça fait rire Andrea parce qu'il est arrivé. Il est arrivé comme un grand James, comme ça, en disant aujourd'hui, tu vas voir, c'est IB qui va gagner le championnat. T'as aussi Flavio Di Colantonio qui est tout content de la petite statue de Lautaro Martinez.
Merci Flavio.
Et puis, juste peut-être pour clore Servette, moi il y a un autre joueur que je trouve formidable et extraordinaire à Servette, c'est Antunes. Pas parce qu'il a marqué son deuxième but consécutif aujourd'hui en l'espace de deux matchs, mais quand il est fit, quand il peut jouer, quand il n'est pas blessé, puis qu'il a cette continuité, pour moi, c'est un joueur, mais un des meilleurs milieux de Super League.
C'est comme Cespedes à Yverdon. Moi, je trouve que c'est les pendants sur les deux équipes. Évidemment, alors de là à dire qu'il y a un Servette avec et sans Antunes, je pense pas autant qu'un Yverdon sans ou avec Cespedes.
Je suis d'accord.
Évidemment. Ouais. Quand tu as un joueur avec un talent pur, tel, fit, et qui t'apporte quelque chose, bien sûr, ça change tout.
On va en parler de Cespedes aussi tout à l'heure quand on parlera d'Yverdon, parce que là, j'ai aussi des questions à l'agent, à l'invité, parce que là, il y a des trucs qu'on comprend un petit peu moins, c'est presque encore plus difficile à comprendre. Est-ce qu'on peut partir du principe qu'on a fait le tour bonne remarque de Steph, nous dit Rocksnake68, mais je ne sais pas à quelle remarque il fait.
Merci.
Il fait tout le temps des bonnes remarques, Steph, donc il faudra préciser. En parlant de Cespedes, Daniel, un mot sur son absence. Oui, on en parlera tout à l'heure. Premier match du LS sans Antoine Berned. Hier, le LS s'est imposé, samedi soir, le LS s'est imposé 4-1 contre Yverdon. C'est difficile de juger vu ce qu'il y a eu en face et puis vu le scénario du match. Mais Berned, là, pour moi aussi, tu vois, on a parlé de Cespedes, on a parlé de Koutessa, on a parlé d'Antunes. Le LS, pour moi, avec Berned, c'était quand même assez... c'était quelque chose.
C'était surtout un joueur qui... Il donnait un équilibre très, très intéressant au milieu du terrain, avec ce Bernard un peu en récupérateur, vraiment costaud au milieu du terrain, et Alvin Sanchez, créateur devant, c'était vraiment... et Roach aussi, qui complète bien ce milieu de terrain. Mais voilà, Lausanne Sport, sur ce match-là, a montré, je trouve, une très belle énergie. Le début de match n'a pas été facile, parce qu'Yverdon, les premières occasions sont pour eux. Puis à un certain moment, il y a le collectif qui s'est mis en place, avec Alvin Sanchez qui a mis le feu à tout ça. Ouais. Et quel joueur, quel plaisir de voir un joueur comme ça dans notre championnat. C'est fantastique,
c'est
vraiment.
C'est dur de dire, allez... Aujourd'hui, on ne parle pas d'Alvin Sanchez. On en a parlé la semaine dernière. On en a parlé il y a deux semaines.
Mais en fait,
tu es obligé.
C'est un garçon qui est jeune.
C'est comme écouter ça à Servette. Tu es obligé d'en parler.
Aujourd'hui, c'est un des talents de notre championnat. C'est indéniable. Je veux dire, aujourd'hui, les qualités que ce garçon a, et c'est superbe qu'il est resté à Lausanne. Il faut le souligner. C'est, franchement, de rester jusqu'à la fin de saison à Lausanne, c'est top. C'est un garçon qui a de grosses qualités et qui sont ces genres de joueurs qui te changent un match, qui sont capables de, sur une action, sur un truc de grande classe, voilà, mettre ce but. Donc oui, Alvin, on en reparlera à chaque fois. Je pense que... Mais de nouveau, c'est difficile de ne pas parler de joueurs comme ça parce qu'on aime le football pour des joueurs comme ça. Je veux dire, je rêverais d'être son agent. Hein. Je veux dire, de nouveau, à un moment donné, d'avoir des joueurs comme ça, même pour un agent, sans parler du côté, mais du côté émotionnel, c'est magnifique. Quoi. Quand
tu
on va
sais,
sur un terrain...
Je vais te dire un truc. Je ne sais pas si tu es un fidèle auditeur du podcast ou un fidèle téléspectateur, mais il y a quelques semaines, il y a Barthélémy Constantin qui est venu ici même. Et le joueur... qu'il prendrait à Lausanne pour le mettre dans son effectif, c'était aussi Alvin Sanchez. Donc on est à deux petites caresses.
Non mais c'est une réalité.
Sanchez.
Aujourd'hui c'est un garçon qui est, c'est un 2003. Enfin c'est un jeune garçon qui montre qu'il a un talent énorme. Alors aujourd'hui le prochain step est là. Très attention au prochain step, parce que c'est là où on peut toujours parler du fait que les joueurs partent et reviennent. Hein. On a encore eu un exemple, ce mercato avec Fasnacht, avec d'autres joueurs. Le prochain step va être fondamental. Ce sera un step à la Vargas. Hein, qui est un top step, ou est-ce que ce sera un step peut-être différent qui va malheureusement avoir peu de temps de jeu puis revenir par la suite en Suisse.
Bah c'est quoi le risque justement?
Le risque, c'est ça.
Ce serait quoi le genre de club? On sait que t'es pas son agent, mais
non,
je veux dire, ce serait quoi le step le plus intelligent, le moins risqué?
Un club de milieu de tableau dans n'importe quel enfin, top 5. Ouais. C'est-à-dire que ça soit n'importe quelle ligue, mais un club de milieu de tableau comme l'a fait Vargas avec Augsbourg. Mm-hmm. On voit la réussite de Vargas aujourd'hui qui est passé à Séville. Voilà, je pense
ou même
que l'intelligence.
Okafor, on pourrait dire. Okafor, à un moment donné.
Oui, bah, alors ouais, Okafor, au début, après, c'est parti un peu. Puis ouais. Là, alors, Okafor, si on en parle maintenant, je pense que le transfert du. Enfin, le prêt du Milan à Naples, ça, je pense que là, il vaut mieux qu'on ne parle pas. Parce que. Enfin, je veux dire, là, on est sur des choses qui sont incompréhensibles et qui ne sont pas logiques. Mais voilà, j'espère pour Alvin que, bah, qu'il fasse le bon choix, que c'est les agents ou les gens qui le gèrent le fassent le bon choix. Parce que c'est ce step-là qui sera important pour lui. Aujourd'hui, en Suisse, il a montré qu'il est au-dessus. Il a des qualités
mais
qui sont incroyables.
Longtemps
ben, je pense qu'aujourd'hui, il ne faut pas oublier qu'il a commencé très jeune.
Oui, oui.
Voilà. Donc je pense que là, oui, je dirais que l'été, là maintenant, janvier, ça aurait été trop tôt. Je pense qu'en janvier, ça aurait été un risque énorme et le garçon l'a compris.
Ça me fait marrer. Chris Lausanne dit mon rêve, Sanchez, à l'OM. Alors on sait que toi, en plus,
avec l'OM,
t'as quelques contacts, mais c'est, ce serait le
trop gros step. Ouais, okay. Pour moi, trop gros step. Je pense qu'aujourd'hui, il faut être clair. Il doit partir dans un club où il va avoir du temps de jeu. Mm-hmm. Parce qu'on oublie, c'est un 2003. Ouais. Donc il a encore une carrière devant lui qui est énorme. Il ne faut pas brûler les étapes. Hein. C'est ce que je dis tout le temps aux jeunes joueurs. Les étapes, il ne faut pas les brûler. Le step pour lui, c'est un bon club, évidemment, dans un championnat de top 5, mais mieux de tableau. Un Augsbourg, même Lille en France, pourquoi pas.
Top 5 pour toi, parce que quand on voit certains Suisses qui sont partis, même en Belgique.
Oui, alors oui, on a toujours cette idée. Mais je pense qu'aujourd'hui, il peut viser. Ouais, c'est pas si mal, mais il peut viser un club en Allemagne.
Plus qu'un Yachari, par exemple, qu'à Bruges.
Ouais, moi je pense qu'Alvin, oui, pour moi, oui. Après, ça, c'est des questions personnelles, mais je pense qu'aujourd'hui, Alvin a toutes les qualités pour aller dans un club du top 5, ouais. Mais il faudra bien faire le choix. Voilà, faut pas partir n'importe où.
Mais quel championnat tu lui déconseillerais, par exemple, dans ce top 5? Parce qu'il y a des championnats.
Ah, je dirais que l'Angleterre, peut-être. C'est peut-être pour moi pas le championnat pour lui, en tout cas.
Okay.
Après, pourquoi pas en Allemagne, en Espagne, je le vois assez bien dans ouais. une équipe espagnole.
Moi, j'aurais justement trouvé que la France pourrait lui poser des problèmes.
Aussi,
la rugosité.
La rudesse.
Espagne-Allemagne, je dirais. C'est un peu deux championnats où je le vois bien évoluer. Ouais.
Ouais. Mmh. Ouais.
En tout cas, il a des qualités pour évoluer à ce niveau-là, ça, c'est sûr.
Ouais. Moi, il me fait penser. Je fais pas une comparaison entre Arjen Robben et Alvin Sanchez, qu'on s'entende. Mais je me souviens qu'Arjen Robben, quand il jouait, il avait toujours sa spéciale, cette faculté à entrer.
Cet enroulé.
Ouais. Tu te souviens de ça?
Oui, ouais, c'est magnifique.
Il enroule. Voilà. Alvin Sanchez, j'ai l'impression qu'on sait maintenant qu'il a ce double contact, ce ballon qui lui colle au pied, puis qu'il est capable de rentrer dans une surface de réparation, de te dribbler quatre joueurs, et que même si tu sais ce qu'il va faire, il arrive à conclure.
Parce qu'il a une telle vitesse d'exécution, il a une, enfin du coup, c'est un garçon qui joue à l'instinct. Enfin, c'est pour ça que c'est beau à voir, parce que c'est un gamin qui pue le football, quoi, qui réfléchit pas, il joue, il est beau à voir. Voilà, quand on parlait d'élégance, mm-hmm. c'est un joueur élégant, c'est un joueur où voilà, on voit qu'il a ça dans le sang, quoi. Donc c'est top. Et je pense que voilà, de nouveau, ceux qui l'ont vu depuis tout petit, hein, de jeune à Lausanne, l'ont vu évoluer. Ben, j'en fais partie. Hein, je l'ai vu dans plein de catégories. Tout le monde savait qu'il avait ce truc en plus. Donc aujourd'hui, il fait que confirmer ce que des fois des joueurs n'ont pas fait. Lui, il le confirme. Et j'espère vraiment pour lui que le prochain step sera. Et c'est peut-être un garçon qu'on verra aller très loin. Peut-être, je l'espère pour lui en tout cas.
Allez, Carlo Letizia nous a proposé son analyse à la fin du match samedi soir, à la fin de la victoire 4-1 du LS. Écoutez ça, il nous parle non seulement en français, mais en plus, il est super poli.
Bonsoir à tous. Voilà, ça c'est vraiment une grande victoire pour nous. On a commencé cette première victoire en 2025 et on est tout contents. Le match n'était pas magnifique, premier mi-temps pas exceptionnel. Quand même, on a commencé un petit peu dur, mais après, on a vraiment lâché toute notre force et on a marqué trois buts. Et voilà, ça, c'est après, c'est facile à jouer et tout ça. Mais vraiment, important victoire pour nous ce soir. Dommage pour le but qu'on a encaissé, mais voilà, c'est victoire à la fin qui compte et on est tout content. Moi aussi, je suis vraiment content et on marche maintenant à deuxième part de la saison.
Cette victoire, elle vous fait du bien à la tête? Est-ce qu'on a retrouvé le Lausanne Sport de la fin d'année passée?
Bien sûr, ça c'est qu'on a, besoin de trouver Lausanne Sport de l'année passée et commencer à gagner chaque match, chaque opportunité à prendre les points. Et voilà, à la fin, cet objectif, c'est top 6 et on doit rester là.
Magnifique interview de Carlo Letizia qui s'essaye aux Français. Il gère d'ailleurs plutôt bien. On a encore des questions pendant l'interview de Letizia. On a des questions sur Alvin Sanchez qui sont arrivées. On va quand même les lire parce qu'il y en a quelques-unes qui sont intéressantes. Puis ensuite, on parlera un petit peu d'Yverdon parce qu'il faut qu'on en parle. Jonas Dorsa nous dit « Seoane aurait besoin de lui à Mönchengladbach ». C'est une destination…
Bonne idée.
Bonne idée, Jonas. Bien joué. Faut pas griller. Alvin Sanchez nous dit « Rocksnake 68 ». Sanchez aurait-il une place en équipe de Suisse, Louis Schenk?
Il mériterait en tout cas d'avoir sa chance dans le contingent. Ouais.
Et puis une dernière, c'est Rocksnake justement. S'il restait encore une saison, est-ce qu'en Suisse allemande ça pourrait être?
Non. Non, catégorique, non.
Steph?
Non.
Non plus. Ok, on peut dire que c'est clair. Merci les gars. On passe à Yverdon.
Mon avis t'intéresse
pas. Non. Pas trop.
Je peux y aller ou...
Non. On va parler d'Yverdon. Ah, justement, ça m'intéresse.
Non,
parce
c'est
que
juste pour savoir.
Yverdon est très très bien parti hier. Okay. Tu l'as dit toi-même. Tu vois, je t'écoute. 20 minutes. 20 bonnes minutes.
Moi, j'ai dit qu'un truc. Donc.
20... Mais tu dis des choses intéressantes.
Merci.
Laisse-moi avancer. Alors, donc, Yverdon, 20 bonnes minutes. 20. Très bonne minute même. Et puis tout à coup, l'équipe s'écroule en l'espace de quelques minutes seulement. Je ne te demande pas de me dire pourquoi c'est arrivé, mais de quoi ça peut venir. Est-ce que tu as déjà vécu ce genre de truc?
Il y a eu des épisodes quand même un petit peu malchanceux aussi dans ce match pour Yverdon et peut-être un peu chanceux pour Lausanne. Lausanne n'a pas eu trop de réussite dans ce début, on va dire, dans cette reprise. Là, il y a deux, trois événements quand même. On voit sur le premier but, typiquement Alvin Sanchez qui se loupe complètement et ça finit en passe-dé pour Aydini. On voit le troisième but, je crois, qui est un autre but. Enfin bref, il y a des situations comme ça, des faits de jeu qui, à un certain moment... Te font basculer un match d'un côté plutôt que de l'autre. Et après, Lausanne a su profiter de ses faits de jeu pour vraiment commencer à dominer complètement Yverdon et vraiment les écraser presque. Mais c'est vrai que des fois, des matchs, ça se joue sur des épisodes. Et ces épisodes-là ont été en faveur de
Lausanne.
De Lausanne, de sur Lausanne. Ce match-là.
10 buts encaissés par Yverdon entre IB et Lausanne, c'est énorme. Tu peux difficilement te sauver quand tu prends autant de buts, c'est juste.
Ouais, là, il y a beaucoup de buts qui ont été pris. Bon, attention, hein, IB en ce moment, aller jouer là-bas, c'est pas facile. Si on a fait les frais ce week-end aussi, mais j'ai trouvé IB, Yverdon intéressant, Tramezzani. Je l'ai vu avec une autre philosophie de jeu dans l'aspect défensif. Il a été chercher un petit peu dans le 1 contre 1 les adversaires assez haut. Et effectivement, c'est un mode de défendre qui comprend quelques risques, surtout quand tu joues contre des équipes qui sont peut-être un peu plus forte comme ça, voilà, c'est des risques que tu prends et ça peut te coûter des buts. Et c'est vrai que sur ces deux matchs, il y a eu quelques erreurs qui ont été commises, peut-être à réfléchir.
T'as quand même déjà le faux départ de Berne où ils prennent très vite un but vraiment évitable, hein, quand même. On rappelle sur une touche. Après, effectivement, IB c'est fort, IB à la maison c'est fort, IB est en train de revenir. Mais quand même, je me demandais, parce qu'Andrea vient de le mentionner, Tramezzani nous a dit « j'arrive avec une autre philosophie ». Sachant que les dirigeants veulent que cette équipe d'Yverdon joue à 3 derrière, est-ce qu'on pourrait se retrouver à un moment donné avec de nouveau une défense à 3 Yverdon, plus rapidement qu'on pense?
Moi, je ne pense pas. Je pense qu'évidemment, Tramezzani est arrivé et puis il essaye d'imposer un peu son style. Andrea l'a dit, ça prend un peu de temps. Et puis de nouveau, il tombe contre un IB qui est en ce moment… on est tous d'accord pour dire que… On mise une pièce sur eux pour la victoire en fin de saison. Donc déjà difficile. Puis là, il y a eu aussi des épisodes qu'on fait dans ce match-là. Andrea l'a rappelé. Un match, ça peut partir. Aujourd'hui, on voit le résultat 4-1, on se dit ils ont. Mais non. Si on voit le match, Yverdon au début aurait pu tout à fait faire mieux. Puis à un moment donné, il y a des enchaînements de trucs qui font que. Donc non, je pense que Tramezzani est en train d'essayer de mettre quelque chose en place. Ça va être difficile, mais ça, je pense qu'on le sait depuis le début de la saison. Yverdon, on se fait pas d'illusions. Yverdon va se battre jusqu'à la fin pour pas être relégué. Ou en tout cas pas avoir cette place de barragiste.
Mais sur le papier, moi je trouve que cette équipe, elle a quand même fière allure. C'est quand même des joueurs qui...
Oui, mais de nouveau, c'est, la mayonnaise, elle n'a pas encore prise. Puis là, il y a un nouveau coach qui arrive. Donc il faut qu'il mette en place ces trucs.
Et puis, Yverdon est tombé contre des équipes en pleine bourre. Lausanne n'avait pas encore gagné. Ils devaient absolument gagner. Ils ont profité de ce derby pour gagner. IB, ils mettent but sur but. Il ne faut pas oublier un truc, c'est que Yverdon a gagné le match qu'il fallait.
Oui, contre Winterthur la semaine dernière.
Finalement, moi, je ne suis pas autant inquiet que ça. Moi, je pense qu'effectivement, ça demande du temps. On le voit avec Winterthur, pauvre Olifortet. Mais ça demande du temps et puis je pense qu'ils vont, s'améliorer plus vite qu'on pense. Ouais.
Et puis si on parle justement, on l'a teasé un petit peu avant, de ce cas Cespedes, pas convoqué, on sait qu'il arrive en fin de contrat, il y a Marquezano qui est arrivé, ouais. Moi je me réjouissais déjà, j'en parlais dimanche dernier, je me réjouis de les voir jouer ensemble, j'étais hyper frustré, c'est... Alors, je te demande pas si tu as des infos, mais...
Non, puis si j'en avais, je ne le dirais pas.
Voilà. Il est pro, Lorenzo. Il est pro. On essaye d'aller quand même. Non, mais voilà. C'est quand même... Voilà, ça va être une thématique.
Oui, c'est une thématique, bien sûr, parce qu'on connaît les qualités de Boris. C'est évident qu'il faisait du bien. Il faisait du bien à Lugano. Lapsus. À Yverdon.
T'as une info.
Non.
On le sait.
Non, voilà. Non, c'était une lapsus.
Attends, je vais juste péter un petit truc. Je reviens tout de suite.
Boris à Lugano. Non, mais ce que je veux dire par là, c'est que Tramezzani est arrivé. Voilà, à un moment donné, est-ce qu'il fait des choix? Ben voilà, il a fait ce choix-là. La même chose, c'est le coach qui a pris la décision, je pense. Connaissant Tramezzani, c'est quelqu'un qui prend ses décisions. Je pense pas qu'il se laisse influencer, ça c'est clair et net. Donc voilà, il a pris cette décision. Bon, est-ce qu'on reverra Boris au prochain match? J'espère pour Yverdon, parce que c'est vrai que c'est un plus.
Bah oui, tu vois, t'as même les supporters de Lausanne qui nous disent là en commentaire, bah moi j'étais content de voir que Cespedes
bah oui, pour eux, c'était bénéfique.
Pas là en face.
Bah oui,
bah évidemment.
C'est comme si Lausanne n'avait pas Alvin Sanchez.
C'est ce que j'allais dire, évidemment. Les adversaires, quand ils ne voyaient pas Sanchez en face.
Les adversaires de Servette étaient contents qu'il n'y ait pas Cutezan au début de match.
Voilà. Oui, voilà.
On est toujours contents quand il n'y a pas un bon joueur.
Ils étaient moins contents quand il est rentré. L'analyse très froide, mais pas défaitiste d'Antonio Marquezano.
Jusqu'au premier but, on était là, on était agressif, on était sur le deuxième ballon. Et après le premier but, je ne sais pas ce qui s'est passé, on est devenu un peu passif. On a fait la vie un peu facile à Lausanne. On a beaucoup de choses à travailler.
Quel secteur doit être amélioré dans le jeu pour Yverdon Sport pour pallier à ce genre de défaite?
Il n'y a pas un secteur seul qu'on doit travailler parce que il faut qu'on travaille tous ensemble. On doit se sauver. On connaît notre situation et il faut parler de l'équipe. Si l'équipe il va travailler tous ensemble et bien, je suis sûr qu'on va se sauver tranquillement. Sur ça, on doit bien travailler. Il faut qu'on apprenne là que aussi si on prend un but, il faut continuer parce que le match ça dure 90 minutes. Nous, on va se battre jusqu'à la dernier match et on va être là pour chaque point. Et Jovens, oui. Si on comprend ça, si on va se battre vraiment tous ensemble, on va se sauver.
Voilà le message d'Antonio Marquezano qui découvre Yverdon. Si tout le monde est ensemble, si on travaille tous ensemble, on va sauver. Il le dit même deux fois. Je suis sûr qu'on va se sauver. Tu y crois?
Alors j'y crois. Alors déjà, ils ne seront pas derniers. Et même s'ils sont barragistes, je ne vois pas le barragiste, quel qu'il soit de Super League, tomber contre le deuxième de Challenge. Voilà.
Parfait. On revient maintenant sur le 5-1 d'IB infligé à Yverdon. Je vous propose les 6 buts dans les conditions du direct avec Vincent Rigolet et Steve Guillaume au commentaire.
Infligé à 6.
Oh la frappe incroyable! Quel but! Venu de nulle part! Young Boys qui prend les devants par Ravelosson! Quel but incroyable! Une minute de jeu!
On va suivre cette opportunité. Virginus qui est passé, Virginus! Et c'est le 2-0!
Alan Virginus qui nous lâche une roulette dans la surface et c'est Bedia qui est ici pour conclure. Il va le faire, Benjamin Kololi qui est parti. Il y a Blum avec lui, Kololi veut centrer l'autre côté, il avait raison. Il y avait de la place là-bas, bouche la reine. Kololi l'a récupéré. Le tir de Benjamin Kololi. C'est incroyable. Incroyable, où est passé ce ballon? Bedia qui met de la vitesse, Bedia qui peut lâcher Montero, le centre de Montero. Et 3 de Virgilius. Blum. Ballon là vers Fasnacht avec Virginus qui va pouvoir centrer, il s'applique. Bedia tranquillement le 4-1. La tentative, alors celle-là elle est bien dévissée mais ça se transforme en passe et ça fait le 5-1 pour Christian Fasnacht. Victoire d'IB 5-1 face au FC Sion après le 6-1 ici même contre Yverdon.
La victoire écrasante d'IB contre Sion et pas contre Yverdon, évidemment, vous aurez compris le lapsus. On parle d'abord d'IB ou de Sion? Vous choisissez. Ouais. Andrea.
IB.
IB. On parle d'IB. qui n'a plus des matchs tous les trois jours, qui a fait, à mon avis, un mercato très intéressant, faisant revenir Bedia. Ce Ravelosson me plaît énormément. Le retour de Fasnacht aussi. Et tu rajoutes...
Et la patte de Contini qui commence à se voir. Non, ils sont sur une dynamique... tu sens une nouvelle énergie, en fait. Tu sens une nouvelle énergie. Et je crois que les joueurs l'ont compris. Ils voient maintenant les premiers à 6 points. Ça donne des idées, une motivation. Ils sont transcendés, là. Sur ce match-là, tu sens les joueurs. Ils sont transcendés. Ils sont à fond, ça va dans... Il y a une grosse intensité, il y a de la réussite, il y a tout qui sourit. On a l'impression que tout ce qui ne fonctionnait pas avant fonctionne maintenant. Et c'est pour ça que là, ils font peur.
Ouais, ils
font
peur dans le bon sens du terme. Eu un déclic le match à Lausanne quand il marque après moins d'une minute, parce que ça faisait 4 matchs depuis que Contini était
arrivé
qui marquait pas, 2 en championnat, 2 en Champions, puis tu sentais que ils étaient meilleurs, parce que moi j'avais fait IB Winterthur le tout premier match, ils auraient pu gagner 3-4-0 ce match, mais là ils étaient tombés sur un Capino incroyable, puis tu sentais qu'il manquait ce déclic du premier but, il est arrivé face à Lausanne et puis là on le voit, il déroule,
mais
et
là,
puis les joueurs qui sont arrivés, ils participent,
oui,
incroyable.
Et ce que tu dis, c'est intéressant quand tu dis qu'ils n'arrivaient pas à marquer, parce que contre Lausanne, but dans les premières secondes, contre Yverdon, but dans les premières secondes, et puis hier soir nouveau construction, but dans les premières secondes,
parce qu'ils sont à fond, ouais. Et puis IB est revenu aux fondamentaux, c'est-à-dire IB, ils font un mercato d'une intelligence phénoménale, on fait revenir Fasnacht, on prend Bedia. Ils connaissent
des
le championnat,
ouais.
Des mecs qui vont être... Puis ils prennent ce Ravelsson qui est intéressant. Ceux qui l'avaient déjà vu en France savent que c'est un bon joueur. Donc voilà, un mercato super intelligent, nouvelle dynamique, comme l'a dit Andrea. On sent qu'ils sont, libérés d'un truc. Non, c'est sûr que IB aujourd'hui, là, comme ça, il va falloir aller les chercher pour le titre, hein, parce que c'est, ils vont venir très, très, très fort.
C'est marrant parce que dimanche dernier, ils étaient au-dessus de la barre, je crois, ou c'est pendant la semaine qu'ils sont... Non, c'est pendant la semaine qu'ils sont montés. Puis là, maintenant, ils sont... De nouveau passer
mais ils sont à 6 points.
C'est ça qui est marrant, je trouve.
Mais ils ont une dynamique incroyable. Ouais. Quand on met 6 et 5 en 2 matchs,
ouais.
Je peux t'assurer, André, là, je pense pour un coach, pour une équipe, c'est bon, t'es parti, quoi.
Surtout, tu as des signes qui ne trompent pas. C'est la réussite, en fait. Tu vois ce premier but, c'est un geste incroyable. Le mec, tu ne sais pas d'où il sort ça. il le fait à ce moment-là. Le dernier but, je crois que c'est le dernier. Je ne sais pas qui c'est. Il veut centrer. Elle est touchée et puis elle finit en passe D.
Ouais.
Voilà, c'est ces petites choses. C'est comme je disais pour Alvin Sanchez. Quand tout réussit, tout réussit. Il a le premier but où il se loupe. Le dernier but, il affronte le gardien. Ça lui revient contre et ça finit dedans. C'est des signes. Ouais. C'est des signes que quand tu as le vent en poupe, tout va.
Et où ça ne va pas, c'est à Sion. Avec 2 matchs, 8 buts encaissés. Déjà 16 goals, rien qu'en 2025.
Défense compliquée avec Schmidt qui est parti. Faut être honnête, Schmidt, c'était quand même un sacré pilier derrière.
Alors moi, je me permets, et j'ai envie qu'on parle de Balthazar.
Oui,
parce qu'on parle tout le temps de Schmidt, c'est vrai,
aussi,
il est parti.
On est
mais Balthazar, l'absence de Balthazar, pour moi, elle est encore plus importante.
Oui, métronome du milieu de terrain, bien sûr. Non, mais les deux sont... Enfin, j'allais venir. Les deux, pour moi, sont deux pertes très importante et c'est compliqué hein, quand tu as un joueur comme Balthazar au milieu qui est quand même
qui
le métronome
régule,
et puis Schmidt derrière qui est quand même là qui est là hein, qui coupe contre les latéraux, ils ont de la peine, qui est là au combat, c'est sûr que c'est difficile. Après voilà, c'était une opportunité de vendre Schmidt certainement à un bon prix et ça voilà, c'est le football business et c'est normal que ça arrive aussi. Après le problème c'est ce qui est derrière, c'est dur quoi.
Ouais, mais c'est vrai ce que tu dis là, l'histoire de Schmidt qui coupait, parce qu'on voit maintenant les latéraux beaucoup plus en difficulté parce que ils ont le réflexe.
Oui, mais parce qu'ils savaient que derrière il y avait Schmidt qui arrivait puis qui coupait. Là, on voit sur ces deux derniers matchs, il y a plus.
Ouais.
Et ça je t'assure de nouveau, Andréa là, pour un latéral qui a l'habitude que il est quand même tranquille parce qu'il sait que son... Là, il n'y a plus. Donc, ça veut dire que les latéraux doivent faire un travail encore plus fort.
Ouais.
Et ils ont plus de sécurité. Donc, c'est vrai que c'est dur. Puis là, ils tombent malheureusement sur. Après ce match où voilà, ils font un 3-3, ils tombent sur ce IB-là. Compliqué, quoi.
Tu vois, là aussi, encore une fois, c'est pas une question où je te demande de décider à la place de Didier Tolo, mais on sait qu'il cherche tout le temps des solutions. Il a déjà vécu ce genre de situation en automne où il n'arrivait pas à gagner. 10 matchs sans victoire. Est-ce que. Passer à une défense à 3, il l'a fait une fois à Saint-Gall, si je ne me trompe pas. Tu imagines ça, justement, pour blinder un peu Barba, Airizi et...
Moi, non.
Peut-être Ziegler
Ouais, je pense pas.
Je pense pas. Je crois qu'il a les idées assez claires. Il faut dire qu'ils ont un petit coup de mou en ce moment. Ça peut arriver. Mm-hmm. Moi, je trouve qu'ils sortent quand même de ce collectif quasiment le maximum. Tu as quand même des joueurs qui, malgré le fait de sont un petit peu dans un coup de mou, tu as quand même une équipe qui est unie, qui se bat ensemble, qui essaye. Et puis voilà, peut-être qu'aujourd'hui, ce qui leur manque, on parlait de ces joueurs qui font la différence. Il n'y a pas ce joueur actuellement en forme.
Il manque un vrai buteur.
C'est
la différence. vrai type qui est là devant.
Oui, parce que Chouareff, on a beaucoup parlé de Chouareff, mais Chouareff n'est pas forcément un numéro 9, un buteur comme Bedia, par exemple. Ou comme Nsame.
Tu mets un Bedia aujourd'hui à Sion. Je pense que ça fait la diff. Tu mets un Jean-Pierre, un Nsame à Sion. Ça peut faire la diff. Voilà, c'est vrai qu'il manque ce renard. Enfin, on a vu, on en parlera peut-être après, mais on a vu le deuxième but de Jean-Pierre. Ouais, c'est le vrai buteur, quoi. Puis les buts de Bedia, c'est du vrai buteur, voilà.
Allez, on écoute vite
Dany, qui l'appelle tous les joueurs par
leur prénom.
Par
leur petit prénom.
Il a vraiment un rapport très privilégié. Alors,
non, sur certains joueurs, c'est des joueurs que je connais. Donc Jean-Pierre, oui, Jean-Pierre, je l'ai vu arriver à Servette. À l'époque, j'avais Fabry. Oui, Jean-Pierre, aujourd'hui, j'ai de la peine à l'appeler Nsame. Non, mais c'est vrai, c'est des choses. Boris, la même chose, j'ai de la peine à l'appeler Cespedes. Mais c'est un peu normal. Le joueur que je connais pas, c'est différent, mais le joueur que j'ai connu, pas en étant son agent, bien sûr, mais en ayant des joueurs qui le côtoient, c'est vrai que c'est un peu, oui, j'ai une relation privilégiée.
Je te taquine.
On écoute l'analyse de fin de match de Kevin Bua. Vous allez voir, c'est là aussi très lucide et assez sévère.
Non, je pense pas. Je pense qu'on peut s'en prendre qu'à nous-mêmes. Ce qui me déplaît le plus, c'est surtout l'engagement qu'on a mis. On n'y était vraiment pas dans les duels. Et je pense que c'est ça qui a fait défaut parce que, voilà, on entame deux matchs assez compliqués avec ce premier but. Mais après, on arrive à mettre le 2-1 et puis on doit se laisser un espoir. Et puis, voilà. Après, au final, on a perdu tous les duels aujourd'hui. Donc, voilà, ça doit. C'est une belle claque aujourd'hui. À nous de remonter la pente et puis que ça n'arrive qu'une fois.
Allez, dernière petite question concernant cette rencontre. Il a parlé des deuxièmes ballons, il a parlé des duels. Nous, on a parlé de trop de buts encaissés. Est-ce qu'il y a une autre raison qui fait que Sion a perdu ce match, a été surclassé hier soir ?
IB sur une autre planète actuellement.
Très bien. On va parler un petit peu mercato, puisque Lorenzo Falbo est agent et qu'il appelle les joueurs par leur petit nom. Lorenzo est venu avec quelques listes, on en parlera dans quelques instants. Il est venu avec ses coups de cœur en Suisse, en international. Et avant, j'avais quand même envie de savoir si Lorenzo avait bien fait ses devoirs avant de venir dans match après match. Donc il y a un petit quiz pour vous, Lorenzo. Quel est le joueur qui a été acheté ou vendu le plus cher durant le mercato d'hiver ?
Ah ben, je dirais PSG, Naples PSG.
Alors, il est dans les trois, mais il y en a deux cher. Au-dessus. Ah, il y en a un que tu devrais connaître, que vous devriez connaître.
Ah, oui, 77 millions d'Uran en Arabie Saoudite. Ouais. Mais là, je pensais que la question, elle se référait au marché européen, parce que là, on est en train de parler d'autre chose.
Marché européen, donc Duran. Combien de joueurs de City dans le top 10 des plus gros achats cet hiver ? 2, 3 ou 4 ?
Alors, je dirais 2.
Il y en a 4. Marmouche, Nico Gonzalez, Kuzanov et Vitor Reis. Kuzanov qui a d'ailleurs marqué hier son premier but contre Letton en cup. En cup.
C'était compliqué. Tu peux rapprocher la feuille un petit peu.
t'as pas de quiz, t'inquiète.
C'est pour mettre en difficulté directe.
C'était compliqué pour City.
Compliqué, ça, hein. City qui s'en sort grâce à ses titulaires. Bon, Pep Guardiola qui met ses remplaçants. On parle de Grealish, on parle de
Rico Lewis.
Puis c'était compliqué aussi pour un autre.
Et c'était compliqué pour Liverpool qui s'est fait sortir aujourd'hui par Plymouth Argyle. Vous savez qui joue là-bas ? En défense centrale.
J'avais vu.
J'ai mon producteur qui est extraordinaire, qui me le glisse dans l'oreillette. Il est fort, mon producteur. Il s'appelle Daniel Burkhalter.
Le joueur ?
Je sais qu'il y a
un ancien de Zurich.
Je sais
qui est parti là.
Katic.
Ouais, c'est juste. Nicolas Katic qui a éliminé.
Nico.
Nico, exact. Elle est très bonne, celle-ci. Bien joué, bien joué. Allez, on continue le petit quiz. Quel club a dépensé le plus d'argent durant le mercato d'hiver ?
Plus d'argent ?
Ouais.
En Europe ?
En Europe.
En Europe. Même Manchester City.
Manchester City, exactement. 218 millions dépensés. Quels sont les trois clubs qui ont dépensé le plus ? City. Ensuite, tu as un club en Arabie Saoudite.
Oui, Al-Nassr, bien sûr. Et puis, PSG ?
Non. Je pensais bien que tu dirais PSG, mais Rennes a dépensé plus que le PSG.
Alors ça, c'est fort.
C'est assez effectivement, fou. Assez fou. L'équipe italienne qui a dépensé le plus ?
Naples pour Okafor. Non, pardon.
Non. Enfin, c'est un prêt. Le Milan.
Mon producteur joue au quiz. Je ne l'ai pas invité, mais il joue.
Il dit aussi
le Milan, mais c'est Côme.
Ah ouais ?
Bah ouais, parce qu'ils engagent pas mal, comme devant le Milan et devant la Juventus. Bon, Daniel, tu peux
c'est
jouer.
C'est bon, le quiz, hein, c'est bon, là.
L'équipe espagnole qui a dépensé le plus ?
Je pense que tu l'as. L'équipe espagnole qui a dépensé le plus Ah ben c'est le Bétis.
Le Bétis, évidemment. Exactement, ouais.
Ça a été dur à trouver, hein.
Ouais.
Ah c'est pas mal. Là.
Ouais, ben sur le marché espagnol.
Ah, franchement, tu, allez, tu m'impressionnes.
Ouais, quand même.
On y va avec donc les coups de cœur de ce mercato de Lorenzo Falbo en Suisse et à l'étranger. On en parle ensemble. On commence avec les 5 transferts préférés en Suisse cet hiver avec Christian Fasnacht tout en haut de la liste.
Bah, Fasnacht, hein, voilà, on sait ce qu'il peut apporter à IB. Je pense que, de nouveau, c'est un choix intelligent et de sa part, parce qu'il est en difficulté, et de la part d'IB qui fait revenir un enfant du club, en tout cas un garçon qui leur a apporté énormément. Donc, ouais, très très bon retour de Fasnacht à IB. Il l'a montré aujourd'hui, hein, je crois que. Enfin, hier.
Voilà. On lit juste la liste pour ceux qui nous écouteraient en podcast. Christian Fasnacht à IB, Aliou Balde au LS, Chris Bedia à IB, Steven Zuber au FCZ, Jean-Pierre Nsamé à Saint-Gall, Balde du LS. Aussi haut devant Bedia?
Ouais, alors après, je l'ai mise pas devant Bedia, mais je pense que c'est un joueur qui est intéressant pour le LS et qui peut vraiment apporter quelque chose. Mais ils sont au même niveau. Hein. Je dirais que sur la liste que j'ai faite, je pense qu'ils sont tous plus ou moins au même niveau.
Pour le moment, on peut dire que Bedia a tout de suite livré la marchandise.
Marqué les esprits.
En tout cas, sur les buts, sur le jeu, c'est peut-être autre chose. Mais
moi, j'aurais mis alors Nsami plus haut que Zuber, en fait. Parce que Zuber, moi, depuis qu'il est arrivé, il me convainc pas forcément.
Alors, la liste, elle est
pas dans l'ordre.
Non, Nsamé, on l'a vu aujourd'hui, il rentre, voilà. Il fait la diff. Ça, c'est Nsamé. Mm-hmm.
Bedia, c'est déjà 3 buts en 2 matchs, hein, et même 3 buts en 3 jours, on pourrait le dire, depuis son retour en Super League. Il manquait vraiment ce genre de joueur-là à IB. En fait, le mec qui peut te décider un match à lui seul, le mec qui peut te marquer des buts de la tête, ce que IB n'avait pas fait encore jusqu'ici, le gars qui connaît la Super League, le gars qui pue le foot.
Ah ouais, il l'avait par le passé ce jour-là, hein, IB. Là, effectivement, il retrouve un buteur, un gars qui dans la surface fait vraiment mal. Et on a vraiment l'impression que toutes ces arrivées arrivent au bon moment, ensemble. Et ça fait d'IB en ce moment vraiment une équipe très costaud.
C'est un sacré coup dur pour Cédric Eaton. Parce que rappelez-vous, il y a une ou deux saisons, il mettait but sur but. Il était même de retour en équipe nationale. Et puis, depuis quelques temps, il s'est perdu, malheureusement, pour lui.
On l'a presque oublié. Hein.
Voilà. Ouais. Et puis,
on l'a oublié.
Voilà. Et puis, c'était lui aussi qui avait ce rôle-là de marquer de la tête et d'être l'avant-centre. Et pour lui, effectivement, c'est arrivé de Bedia, c'est tout sauf une bonne nouvelle. Quoi.
Alors, sauf une bonne nouvelle,
bonne remarque, hein, de nouveau.
Ça va peut-être le booster.
Peut-être.
Bonne remarque. De staff.
De nouveau.
Je sais pas si c'est écrit. Là, il y a le cœur pour Stéphane Amoroso. Il y a un cœur.
C'est qui Snake.
Snake qui fait une bonne question.
Bonne remarque. Cédric Eaton au FC Sion pour se relancer. Qu'en pensez-vous, puisqu'on parlait de Cédric Eaton?
Pourquoi pas? Après, ce serait aussi un coup dur pour Sorgic, même s'il est plutôt sur la fin. Mais...
Ouais, puis qu'il n'est pas très content. Je l'ai vu marquer un but la semaine dernière.
Je pense qu'il n'est pas trop content de ne pas jouer beaucoup, finalement. Mais voilà, quand il joue, il n'a pas apporté énormément ces derniers temps, il faut être honnête.
Non, bien sûr.
Bedia, pour revenir à cette thématique-là, qu'est-ce que vous aimez particulièrement chez lui si vous deviez sortir un truc, une qualité?
Sa grinta.
Son abnégation.
Il a envie, quoi.
Ouais. Ouais.
On le voit, il rentre sur le terrain, c'est un taureau, quoi.
C'est incroyable parce
qu'on le lâche dans l'arène, quoi.
Tu sais, je pensais quand même, je me dis, on l'a quitté il y a un an à Servette. Il est parti en un an, il peut se passer tellement de choses. Il revient, c'est le même. C'est le même.
Parce que c'est son ADN. Tu changes pas. Je veux dire, un joueur comme ça, il va pas changer. Puis je pense qu'il est très, très content de revenir en Suisse. Ça, j'en suis persuadé. Un championnat qu'il connaît, où il a bien fonctionné. Il a eu une année compliquée. Faut pas oublier. Donc, revenir là, en plus, il revient pas n'importe où, il vient à IB. Mm-hmm. Donc, on fait pas mieux en Suisse. Hein. Donc, non, je pense que le garçon est très content. Puis,
et IB est content.
C'est win-win. Mais on voit le garçon sur le terrain. Il a envie, quoi.
Bon, puisqu'on parle de Chris Bedia, on l'a eu hier soir, justement, à l'interview au micro de Vincent Rigolet.
Chris Bedia, deuxième match au Wangdorf, 2 buts de plus, tout se passe plutôt bien pour le moment.
Ouais, pour l'instant, on va dire ça se passe bien. Après, j'avais à cœur de bien commencer ici. C'est dur un peu avec le synthé, mais je vais m'habituer petit à petit. Et le plus important, il faut marquer, il faut gagner. Il faut gagner les matchs après match. Là, le match il est déjà fini, penser à autre chose, prochain match, et essayer de prendre des points encore.
Vous me croyez si je vous dis qu'il n'y a aucun joueur d'IB cette saison en Super League qui avait marqué de la tête, vous êtes le premier?
Ben non, ils avaient Gamboula, c'est pas possible. J'espère que je vais marquer d'autres de la tête alors. Franchement, il y a une bonne dynamique. Après, il faut rester comme ça. Il faut rester concentré. Après, il faut qu'on soit tous ensemble. Dans les moments un peu durs, il faut qu'on reste bien solidaire. Et après, quand ça passe, il faut enchaîner, il faut attaquer à fond, avoir les occasions, marquer des buts. se mettre à l'abri le plus vite possible et après gérer le match. C'est le plus important. Et prendre des points, prendre des points, prendre des points.
Prendre des points, prendre des points, prendre des points. Pour le moment, ça marche plutôt bien pour IB. On parle d'un ancien joueur d'IB, l'ancien attaquant des Young Boys, Jean-Pierre Nsamé, qui a marqué aujourd'hui. Il est entré en cours de deuxième mi-temps. Il lui a fallu quelques minutes seulement pour marquer un doublé. Le but de l'égalisation et le but de la victoire, 110 et 111e but de Jean-Pierre Nsamé, qui égale le record de Marco Streller, tout en haut des meilleurs buteurs de l'histoire de la Super League. C'est un retour attendu.
Mais mérité. Content pour lui et mérité parce que voilà, c'est quelqu'un qui a tellement apporté au championnat suisse que. Puis c'est pas fini, hein. Le championnat il est encore long là.
Jean-Pierre Nsamé, ça te rendrait service, Andrea, dans ton équipe.
J'en ai parlé, ouais, j'ai fait la demande, j'attends la réponse.
Steph, ouais. Il nous avait manqué, quoi.
Mais oui, il nous avait manqué avec ben voilà, ses qualités de footballeur, mais aussi ses qualités intrinsèques de personne, parce que c'est quelqu'un qui a le soleil dans le cœur, sur son sourire. C'est quelqu'un qui vient toujours très volontiers aux interviews, qui est toujours très, très disponible, et puis qui marque des buts, qui va être le meilleur buteur de l'histoire de la Super League. Alors, extrêmement content pour lui.
Ouais, et c'est marrant parce que alors, moi, personnellement, j'ai continué à le suivre, et c'est vrai qu'il avait un peu perdu cet enthousiasme et ce sourire et ce côté solaire dont tu parles parce qu'il ne jouait pas
assez. Dans le dur,
parce que ouais, t'es dans le dur, tu vas en Pologne. Bah, Krešnik Ayrezi nous disait, la Pologne,
c'est dur,
tu parles pas la langue, t'es pas dans le meilleur contexte.
Puis même quand il est en Italie, c'est beaucoup plus proche de chez nous et c'était aussi compliqué.
Ouais, mais c'est voilà, on retrouve le Jean-Pierre qu'on a connu, qui est humainement, pour l'avoir côtoyé humainement, enfin vous le connaissez tous. Ouais, non, mais c'est quelqu'un qui est sur le terrain fabuleux, mais qui est une super personne, quoi.
Ouais.
Enfin, moi, Fabrique, aujourd'hui en Colombie, ils sont toujours en contact, et je crois qu'ils ont gardé une relation, même à distance. Je pense, je sais pas, mais j'imagine qu'ils s'appellent très régulièrement,
ouais,
en tout cas. Et c'est fou, hein, ils sont complètement l'opposé, ouais. Fabrique en Colombie, lui. Mais voilà, c'est un type, je pense, qui est fidèle à lui-même, qui a les pieds sur terre, et puis là, je pense qu'aujourd'hui, il doit être super content d'avoir fait ce retour comme ça.
Et il est venu à l'interview, on l'écoute.
Jean-Pierre Nsamé, après une première mi-temps compliquée, on a vu toute la force et surtout la profondeur du banc saint-gallois.
Oui, c'est sûr. On a déjà montré cette force de caractère contre Lugano il y a 3 jours. Maintenant, on s'était dit dans les vestiaires qu'il ne faut pas attendre la 45e ou la 60e parce que parfois, les matchs peuvent être difficiles à renverser. On remontre encore une autre force de caractère cet après-midi. On repart avec la victoire, ce qu'on était venu chercher. Maintenant, ça doit nous donner de la confiance et aussi nous rappeler que voilà, un match n'est jamais perdu tant que l'arbitre n'a pas sifflé la fin du match. Mais comme je leur ai dit et comme je le répète toujours, il ne faut pas attendre la deuxième mi-temps parce que parfois, même avec toute la profondeur de banc qu'on peut avoir, parfois les matchs sont difficiles à renverser. Mais aujourd'hui, on prend les 3 points, on est content.
Plus que ça, à titre personnel, un doublé, un joker de luxe, et maintenant vous égalez le record de nombre de buts en Super League avec 111, vous égalez Marco Streller, c'est quand même une petite fierté, non?
Oui, j'ai toujours dit que je faisais le foot pour ça, pour donner ce type d'émotion, et pour avoir moi-même aussi ce type d'émotion. Aujourd'hui, je peux dire aujourd'hui avec fierté que je m'assois à la table de Marco Streller, qui a été l'un des grands buteurs suisses, et je suis fier d'égaler ce record. Mais surtout fier parce qu'on a remporté la victoire et c'était ce qui m'était le plus important. Si on perdait aujourd'hui et que j'avais marqué un doublé, je pense que je ne serais pas venu en interview parce que c'est la victoire avant tout qui m'intéresse. Et aujourd'hui, je suis celui qui sort avec 2 buts. La prochaine fois, ça sera un autre. Mais tant qu'on gagne, c'est ce qui est le plus important.
Voilà, on va parler maintenant de ces joueurs qui ont quitté la Super League pour aller dans le Big Five européen. Il y en a 6 au total. Il y en a, il y a Antoine Bernet qui est parti au Hellas Vérone. Il y a Cheikh Nias qui est parti aussi au Hellas Vérone. Les deux étaient titulaires, ont pris une claque contre l'Atalanta samedi avec un quadruplé de Retegui. C'est l'une de tes équipes préférées aussi, Andrea, en plus de l'Inter. C'est Meshack Elia à Nantes,
ouais,
22 minutes à une défaite contre Brest vendredi. Il y a Luca Rakes à Stuttgart sur le banc lors de la victoire contre Dortmund samedi. Cheikh Kondé à Venise, 4 minutes en 4 matchs pour le moment. Et puis Silver Gonvula à Monza qui jouait aujourd'hui. Lequel de ces joueurs-là pourrait avoir une sorte de même trajectoire qu'un Nsamé, qu'un Bedia, c'est-à-dire partir et puis revenir en Super
League. Sur les 6 ?
Ouais.
Je pense qu'il y en a en tout cas 3, à mon avis, qui vont revenir. Sur les 6, pas quasiment sûr.
Pour le choix de l'équipe qu'ils ont fait ou pour leur niveau ?
Pour plein de paramètres. Repartir à l'étranger au mois de janvier, c'est déjà, je l'ai répété plusieurs fois, mais compliqué.
Hein, tu déconseilles à tes joueurs ?
Toujours. On part au mois de janvier que si vraiment on va chercher du temps de jeu et qu'on va dans un endroit qui va nous donner ce temps de jeu. Partir au mois de janvier, c'est toujours très compliqué. Vous arrivez dans un nouvel environnement, nouveau coach, nouveau coéquipier, peut-être nouvelle langue, etc., etc. Il faut s'adapter. Et la deuxième partie de championnat, finalement là, on est sur 4 mois. Donc c'est compliqué. Donc voilà, l'adaptation. Alors il y en a certains qui ont été vendus. Donc ceux qui ont été vendus, ben ils vont peut-être se retrouver en prêt l'année prochaine ailleurs. Hein, c'est souvent ce qui arrive. Hein. On parlait de Bedia. Bedia a été vendu à l'Union Berlin et est parti en prêt. Nsamé, la même chose, est parti à Venise et était prêté. Donc on est toujours en train de parler de ça. Et je pense que le mois de janvier, c'est pas du tout un bon moment pour partir, excepté pour aller chercher du temps de jeu. Joueur de Super League qui va en Challenge League ou Super League qui va dans une autre équipe peut-être inférieure. Voilà. Donc pour moi, c'est vrai que c'est très compliqué. Ces joueurs, la plupart, pour moi, ont de la peine à s'imposer à l'étranger.
Ouais. Puis t'as aussi peut-être le cas de figure où tu vas à l'étranger dans du Big Five, une équipe du Big Five, mais si tu sais qu'après tu es acheté, puis tu prépares en fait ta saison suivante, peut-être.
Oui, puis là on est sur du Big Five bas de tableau, hein. Ouais. On n'est pas sur du Big Five, parce que quand on parle du Big Five, là on est dans le top 5 européen, mais des équipes comme Monza, comme Hellas Vérone, qui est un petit peu plus haut cette année, ouais. Mais voilà, c'est des équipes où c'est compliqué.
Mais c'est des équipes, hein, qui jouent contre la relégation.
Ouais, donc déjà, t'arrives dans une équipe qui est déjà dans une difficulté, toi t'arrives là, ça va être difficile, quoi.
Ouais, y a Rock Snake, il connaît vraiment tout le monde, Lorenzo, il te connaît toi aussi, ah, je crois. On découvre le dernier classement, c'est le classement du mercato international de Lorenzo Falbo avec Kvaratskhelia à Paris, Jiménez au Milan, buteur d'ailleurs un samedi soir contre Empoli, Jiménez, Colomani à la Juve, 2 buts en 10 matchs avec Paris, déjà 3 en 5 matchs avec la Juve, et puis Rashford Asensio à Aston Villa, Benacer à l'OM et Hernandez au Betis. On n'a pas le temps de tous les faire, mais voilà, je te laisse choisir celui qui...
Bon, les deux, je dirais, Cucho Hernandez au Betis, parce qu'il est peut-être méconnu ici en Europe, mais il est déjà passé par l'Europe, super joueur colombien qui va faire un bien énorme au Betis, compris aussi Anthony, entre guillemets, donc très bon mercato du Betis. Puis Santiago Jiménez, superbe joueur, Feyenoord, qui vient du Mexique, un Argentin, ouais, naturalisé mexicain, qui est un super joueur et qui, il a commencé qu'un but, mais voilà, c'est un peu mes deux coups de cœur, je dirais.
Ouais.
Le mien, c'est Colomouani, mais ouais, je suis absolument pas objectif.
Ouais. Mais moi, je suis extrêmement surpris parce que c'est un mec qui arrivait même plus à mettre un pied devant l'autre et puis tout à coup, c'est pas d'accord.
L'air de Turin
à Paris. Ouais, c'est
là qu'on l'air voit de qu'un Turin. Transfert, ça peut vous relancer totalement
tout
une carrière.
Hein. Ouais. Et là, je pense qu'il a bien commencé. Maintenant, il va falloir qu'il continue, mais oui. On connaît pas l'interne ce qui se passait à Paris avec lui. C'est un garçon qui, comme tu dis, qui mettait pas un pied devant l'autre, mais qui était pas très content, qui respirait pas la sérénité.
Et qui n'était pas utilisé non plus.
Très peu utilisé, voilà. Puis pas mal utilisé. Ouais. Voilà, là, il arrive à Turin et à la Juve, qui est quand même un très grand club, je dois le dire, même si ce n'est pas mon club, mais qui est un très grand club, une grande institution. Jouer dans le stade à Turin, c'est toujours quelque chose. Donc voilà, c'est un joueur qui est transformé, puis tant mieux pour lui. Hein. Puis tant mieux pour la Juve, j'irais.
Ouais. Et ce sera le mot de la fin. 1 heure, ça passe hyper vite. Merci, c'était hyper riche. Merci Lorenzo, merci Steph. Merci Andrea, bonne chance pour cette suite et cette fin de saison. Tout le meilleur, merci, évidemment, Daniel, pour toi. Merci à vous. Vous êtes géniaux, vous avez encore une fois été assez extraordinaires dans vos commentaires, dans vos questions. On se retrouve la semaine prochaine avec 2 invités et pas un seul, on vous laisse la surprise. Belle fin de soirée et une très belle semaine à vous. Ciao !